Bonsoir, bienvenue sur les ondes de Boulevard 102.1 Québec, en espérant que vous ayez passé une belle journée. Un 50 à 60 minutes de podcast, ça vous intéresse. On va parler de chasse et de pêche avec nul autre que l'excellent chroniqueur chasse-pêche Martin Bourget, qui est le président du groupe Aventure Chasse-Pêche. Et sur le point de partir au Shot Show à Vegas, c'est rare que je vais dire ça, c'est rare que j'envie quelqu'un, mais quelqu'un qui est sur le point de s'en aller à Vegas dans un show, puis après ça, profiter du nightlife de Vegas. J'ai l'envie un petit peu pour l'avoir connu pendant des jours et des jours. Vegas, c'est une ville absolument formidable, mais il ne faut pas rester là trop longtemps. Salut Martin Bourget!
Hey Yannick Marceau, comment ça va toi?
Ça va très bien. Hey, merci de me donner un peu de temps, cher ami. Je sais que tu es extrêmement occupé avec tes entreprises, là. Mais le Shot Show, pour les gens qui ne connaissent pas, j'aimerais que tu nous l'expliques, c'est quoi exactement. Mais Vegas, tu as été toi aussi. C'est une ville qui est exceptionnelle, mais moi, je ne pourrais pas vivre là à temps plein. Je pense qu'il me resterait seulement quelques jours à vivre.
Je veux dire, c'est sûr que ton fonds de pension passe là-dedans. Là. Au départ, on va situer le Shot Show, puis on va parler de Vegas après, parce que c'est quand même pas mal intéressant. On a quand même un peu de temps dans Vegas, puis quand même, je te dirais, j'en profite pas. Ça serait du gros bullshitage, parce que quand on arrive sur place, c'est l'opulence qu'on rentre là-dedans. Mais essentiellement, ce que c'est que le Shot Show, toutes les industries ont leur salon, régionaux, provinciaux, internationaux, la chasse et la pêche les ont aussi. Pour la pêche, c'est le ICAST à Orlando un peu plus tard en saison. L'archerie, ça vient tout juste de se terminer, c'est le Archery Trade Association qui a lieu à tous les années juste avant le Shot Show. Et pour tout ce qui est armes et matériel de chasse et le law enforcement, le côté militaire, le côté policier, c'est le Shot Show qui est le salon international. Il y en a un autre en France, il y en a un autre en Allemagne, mais pour nous, en Amérique du Nord, c'est le Shot Show qui a lieu à tous les ans, au mois de janvier, à Vegas.
Donc, il y a des chasseurs, il y a des policiers, il y a des chefs de police qui vont faire un tour au Shot Show. Tous ceux qui doivent travailler ou encore avoir un loisir qui a un lien avec les armes à feu.
Exactement. Tu sais, le grand public n'est pas admis. C'est un salon d'achat. Tous les grands manufacturiers de ce monde, les Browning, Remington, etc., les vêtements de chasse, les jumelles, les lunettes de visée, sont là pour présenter leur gamme, mais aussi leur nouveauté. Donc, les gens qui sont admis au Shot Show, c'est principalement, tu le dis, les acheteurs des différents corps policiers, des différentes divisions des forces canadiennes, américaines, etc., et évidemment, les acheteurs des bannières, les Sel, la Tulipe et Coton, Pro Nature de ce monde au Québec, et les Cabela's, Bass Pro Shop, et tous les commerçants qui achètent vont là, et les médias sont là. Et les médias, là, c'est pas peu dire, là. Il y a autant de médias qui rentrent au Shot Show à Vegas qu'il y a de visiteurs qui rentrent au Salon de chasse et de pêche de Québec. Ça donne une idée, là?
Ouais.
C'est énorme. Juste ce qu'on appelle le Media Room, là-bas, qui est l'endroit où est-ce qu'on peut être isolé pour faire des entrevues radio ou encore filmer ou aller voir les, comment est-ce qu'on appelle ça, les kits marketing des différentes compagnies. C'est grosso modo, si on compare ça, mettons, à ces quatre bâtons rouges. C'est la grosseur de quatre gros restaurants, juste le Media Room pour contenir les gens qui sont des médias. Fait que nous, on va là pour essentiellement aller chercher les nouveautés de l'année, question de pouvoir produire du contenu. C'est quoi les nouvelles armes? C'est quoi les nouvelles technologies? Il y a aussi des destinations là-bas, des destinations à l'international au niveau chasse, au niveau pêche. Mais toutes les nouveaux petits couteaux, télescopes, jumelles, etc., on va tout chercher ça là, l'information, pour bâtir notre contenu pour l'année. On va aussi, évidemment, renouveler toutes nos ententes commerciales avec les différents commanditaires, soit qui sont déjà avec nous ou encore pour aller chercher des nouveautés pour présenter aux gens. Question de toujours produire plus de contenu. Là, la manière ça se passe là-bas, c'est qu'on a un genre de 4 jours qui est un marathon de fou. Et si quelqu'un me dit qu'il a le temps de faire le Shot Show au complet en 4 jours, ça relève du miracle, là. C'est énorme.
Je veux dire, c'est du stock, là. Tu sais, juste l'espace. Je regardais parce que tu m'as fourni des statistiques concernant le Shot Show à Vegas. En pied carré, quand ils ont ouvert ça en 1979, le Shot Show, c'était 5200 pieds carrés. Et aujourd'hui, c'est 811 414 pieds carrés, là. C'est immense.
Oui. Même que pour 2024, c'est 816 000 pieds carrés. C'est 18 acres. Tu rentres là-dedans, la comparaison qu'ils font, c'est le fun. L'espace de plancher qu'il y a là-bas serait assez grand pour accueillir 547 avions de chasse de type F-16.
547 avions de chasse F-16. Puis il y a des tanks qui en rentrent combien, Martin? Avez-vous fait le calcul?
Non. Là, je me fie sur le calcul qu'ils ont fait eux autres. Là. Mais tu sais, c'est un 4 jours qui, juste pour Vegas, là, juste l'économie locale, là, ça injecte 88 millions de dollars dans l'économie locale pour 4 jours. C'est immense, c'est énorme. Puis là, tu sais, on était habitué au SHOT Show qui était déjà immense, mais ils ont rajouté une bâtisse au SHOT Show. Donc, le Caesars Entertainment ont rajouté une bâtisse au Sands Expo Center. Fait que c'est rendu encore plus gros. Je te dirais que c'est assez gros que nous autres, ça fait déjà quelques semaines que tous nos rendez-vous sont bookés là-bas. Puis on amène avec nous deux autres personnes, soit le nouveau copropriétaire d'Aventure Chasse-Pêche, et qui vient avec nous autres, Michael, avec sa femme qui est aussi photographe, qui vont nous aider à couvrir la partie qu'on n'a pas le temps de faire. Donc, pendant que nous, on est dans les rendez-vous avec les différentes compagnies pour voir les nouveautés, eux autres sont à la recherche de nouveautés. Ils sont à la recherche de nouveaux stocks à l'étage des importateurs ou à l'étage des grands manufacturiers, puis ils vont prendre la photo pour nous ramasser un maximum de photos pour pouvoir produire le magazine. Parce qu'à deux personnes, c'est impossible. Puis honnêtement, on regarde l'an prochain pour grossir l'équipe pour aller là-bas. Question de vraiment avoir le temps de faire le tour de ce qu'il y a là puis ramener tout le stock. Parce que pendant qu'on est là-bas, les auditeurs, les lecteurs le savent. On reçoit des milliers de messages. « Hey, allez prendre le nouveau Benelli Black Eagle en photo. Allez voir tel nouveau couteau. Hey, avez-vous vu telle nouvelle arbalète, tel nouveau lance-pigeon? » C'est malade, là. C'est le temps de l'année où est-ce que tous les magasins font leur précommande pour l'année qui suit. Fait que les mordus de chasse principalement et de tir sportif vont suivre nos vidéos pendant qu'on est au SHOT Show de très, très proche pour voir ce qui s'en vient. Ce qui va leur permettre souvent de, si toi, tu as un magasin de chasse et de pêche, ben tu vas commander, par exemple, on parlait de Benelli, on parlait de Browning ou de quoi que ce soit, le nombre de nouvelles carabines que tu as besoin pour ta saison. Fait que l'amateur qui veut être sûr d'avoir ce nouveau modèle-là, ben, il nous suit très proche pour être capable de communiquer avec son marchand, de dire « place-moi en une en commande ». Parce qu'autrement, avec l'approvisionnement dans les dernières années, vous le savez, dans tous les domaines, il y a eu des problèmes d'approvisionnement. Il y a des grosses chances qu'il n'y ait pas l'arme qui convoite. C'est un modèle en particulier qui court après. C'est la raison pour laquelle, tout le long, pendant qu'on est là-bas, on fait beaucoup de vidéos, on fait des entrevues avec des gens dans les kiosques, on va diffuser énormément aussi de photos des nouveautés. Question que vous puissiez voir ce qui se passe. On vous fait vivre le SHOT Show à distance, littéralement. L'équipe au complet d'Aventure Chasse-Pêche qui reste, le reste de la gang qui reste ici au Québec, sont là, connectés sur le serveur FTP. Là. Au fur et à mesure que les vidéos entrent, ils éditent les vidéos puis ils vous les publient. Fait que c'est toute l'équipe analysée strictement qu'au SHOT Show pour la semaine prochaine. On arrive là, nous autres, dimanche, dans la nuit de dimanche à lundi, puis on repart le vendredi qui suit là, pour s'en revenir vers Québec. C'est un méchant marathon. Pour ce qui est du SHOT Show, puis évidemment, mais quel genre de souvenir tu retires de Vegas, toi, quand t'es allé?
Moi, c'est la fête. Je veux dire, c'est toujours le plaisir à Vegas. C'est de voir des hôtels dans lesquels je peux me promener, puis il y a des boutiques à n'en plus finir. Les casinos, les gens qui sont super bien habillés. Puis des fois, tu sors de l'hôtel, puis il y a des gens qui dorment à terre. C'est des restaurants qui sont complètement inaccessibles la plupart du temps. Mais quand tu es à Vegas, tu dis, tiens, je vais aller faire un tour. Finalement, ça te prend un an à rembourser sur ta carte de crédit. Et ça, c'est un fait vécu. Il y a des McDo aussi. Il y a moyen de manger cheap, là, mais quand tu es à Vegas, tu veux vivre l'expérience Vegas, il y a tout le temps de quoi. Ça bouge tout le temps. C'est 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Moi, c'est une de mes villes favorites, mais c'est une ville que je dois me tenir très loin parce qu'à chaque fois que je vais là, je m'amuse comme pas possible, Martin.
Ah, il faut que tu te mettes un budget. Il faut quasiment que tu te mettes un budget sur ta carte de crédit puis que tu libères un peu pour t'amuser parce que tu vas aussi faire des achats à Vegas. Il y a des places là-bas pour les gens qui sont un petit peu country. Il y a le Kimo Sabé là-bas qui est probablement le top de la qualité en termes de country grit, que ce soit des boucles de ceinture à 2, 3, 4 000 piastres, des ceintures à 2 000, 3 000, des bottes, des chapeaux à... Écoute, ton chapeau va te coûter 1400 piastres US si tu as le moule sur la tête. Là, tu n'as pas encore le hat-band qui va alentour. Fait que tu vas sortir de là avec un chapeau à 2500, 2600 piastres canadiens facilement. Mais les gens passent par Vegas, ils vont se ramener un petit morceau de Vegas. Et souvent, le Kimo Sabé, pour les gens de la chasse et de la pêche, c'est une des cibles. Ils vont aller chercher un petit morceau là. Que ce soit un money clip ou juste pour dire qu'ils ont été chercher quelque chose au Kemosabe, qui existe seulement à deux endroits. Hein. Il y en a un à Vegas, puis il y en a un à Aspen au Colorado. Fait que les gens vont pas mal y aller. Sinon, tu sais ce que représente Vegas, c'est trippant à regarder un peu parce que, originalement, on a voulu créer une espèce de paradoxe, une opulence. Au beau milieu du désert, donc ce qui représente ce qui existe de plus aride au monde, créer l'opulence dans tout. Il n'y a pas de limite dans le sexe, la drogue, l'alcool, l'argent. Il n'y a pas de limite. Tout est accessible.
Ouais.
C'est un gros paradoxe qu'on a voulu créer. Puis ils ont réussi. Tu l'as dit, il y a un McDo, il y a un Denny's, il y a des trucs comme ça. Mais tu peux aller dans les Gordon Ramsay de ce monde, dans les Benny Hanna, dans les gros restaurants. Tu as le Venetian, le Palazzo. Évidemment, le Caesar's Palace, le Bellagio qui est incroyable avec les fontaines. Je veux dire, juste l'entertainment en te promenant dans la rue, les musiciens, le magasin M&M, le magasin Hershey, le magasin Coke sur trois étages.
C'est de la démesure. C'est de la démesure. Puis tu as nommé des endroits. Moi, à un moment donné, je laissais mes chums choisir les restaurants. C'est peut-être l'erreur que j'ai faite, là, mais je laissais mes chums choisir les restaurants puis choisir le vin. Puis c'est des gens qui ont des grosses jobs. Tu sais. C'était moi le plus cassé de la gang. Et à un moment donné, je monte, on embarque dans un hôtel, puis là, c'est un genre de centre d'achat. Puis là, finalement, on monte des escaliers. Puis là, je vois, tu sais, je suis pas niaiseux à temps plein, là. Je sais quand même certains trucs. Je vois un restaurant 5 diamants, le fameux restaurant de Joël Robuchon, là,
oui.
qui est un grand chef cuisinier. Puis là, je me dis, j'espère qu'il ne m'amène pas au restaurant de Joël Robuchon. Je veux dire, j'ai-tu de l'espace sur ma carte de crédit, tu sais. Puis là, finalement, on s'en va dans une place un peu plus trendy, qui est juste à côté de ce fameux restaurant-là. Ça s'appelle le STK. Le STK oui. Vegas. Puis, écoute, ça m'a coûté 600$ juste pour moi. Mais, ah oui. Mais ça a été une expérience culinaire. Puis au niveau du vin, là, même si je ne suis pas un grand connaisseur, j'ai apprécié ma soirée. Puis ça fait partie de mes plus beaux souvenirs de Vegas, ce restaurant-là qui se transforme en bar un petit peu par la suite. Ah non, il y a des affaires à faire à Vegas. Puis je t'envie un peu d'y aller. Est-ce que tu pars, toi et ta conjointe?
Oui, absolument. Ah, on part, Kate, moi et Kate, évidemment, Michael et Manon qui viennent avec nous cette année. Donc, on va être quatre cette année dans le voyage.
Fait que vous allez être plus tranquille que juste une gang de gars, là, c'est ça?
Oui, c'est ça. Ben, oui, mais Kate, elle donne pas sa place, hein?
Ah, je comprends, Kate. Mais je veux dire, il y a des affaires que tu fais en gars que tu fais pas gars-fille, là. C'est...
J'avancerai pas trop là-dedans. Mais écoute, effectivement, c'est pas la même game, mais tu sais, je veux dire... T'es à Vegas, hein. Tu sais, il y a les X-Country, entre autres, le X-Country, le X, t'as le X-Rock, le X-Burlesque, qui sont des shows de burlesque qui sont un peu comme amalgamés à différents thèmes. T'as même le X-Zombie qui existe, hein. C'est des shows de tout nu, mais de très grand niveau. Puis, je veux dire, c'est assez trippant comme show que, même si on est avec les filles, là, on leur dit qu'on s'en va au X-Country, là. Ils embarquent, puis ils viennent le voir, le show, là. Puis finalement, ils sortent de là, puis ils rentrent dans le show, puis comme, ouais, je vais me sentir comme un pichou en sortant de là. Finalement, quand ils se rendent compte qu'est-ce qu'ils dansent à la scène, c'est pas tout le temps... ils sortent de là même valorisés, je te dirais. C'est une belle expérience. Il y a des shows de tous les niveaux là-bas, avec ou sans brassière, avec ou sans humour. Il y a de tout. Tu veux t'amuser là-bas? Écoute, c'est la seule chose que je trouve de valeur, c'est que les finales de rodéo à Vegas sont quelques semaines avant que nous autres on passe. Parce que c'est quelque chose que je rêverais d'aller voir. C'est comme... Oui. C'est débile.
Puis Martin, pour ce qui est du Shot Show, y a-tu des... c'est tous des produits qu'on peut commercialiser, mais y a-tu des genres de démos? Tu sais, des fois, Salon de l'Auto, on voit ça, là, des véhicules qui ont été faits par X entreprises, puis on se dit, c'est pas encore commercialisable, c'est futuriste, mais s'il y a une demande, on va peut-être y aller avec la production de ce type de véhicule-là. Tu sais, oui. Pour les chefs de police ou encore pour les policiers, visiter ces départements-là de producteurs, ça doit être exceptionnel. Y a-tu des prototypes, là? Je sais pas, oui. Un genre de policier robot que tu peux acheter? T'as ça aussi là-bas?
Oui, oh, il y a ça aussi. Dans chasse et n'empêche aussi.
Ah, ouais.
Tu sais, tu parlais d'essai, il y a aussi les deux jours qui précèdent le Shot Show, il y a le Industry Shot Day. C'est vraiment un range, Industry Shot Day at the Range. C'est vraiment un range de tir où est-ce que tu peux essayer ce que tu veux, là. Tu prends des balles en vrac avec une pelle, là, puis tu veux tirer du full automatique en calibre que tu veux, tu peux le faire là-bas. Là. C'est, C'est réservé aux gens qui sont au SHOT Show, évidemment, aux futurs acheteurs, aux médias. C'est souvent là qu'on va essayer les armes pour être capable d'en parler, parce qu'on tolérerait pas, en tout cas, dans nos valeurs à nous autres, on tolérerait pas de parler d'une arme outre mesure à part de la décrire dans le manuel d'utilisateur que le manufacturier nous fournit avec. Si on veut donner notre appréciation, ben on va l'essayer. Le range qui est ouvert là-bas est là pour ça. Essayer tout ce qu'il y a de nouveau. Et oui, les prototypes, des fois, c'est capoté. Là. Tu vas du côté... Si tu as du temps, tu vas du côté du militaria, là, du côté tactique. Là. C'est hallucinant ce que là, tu fais comme, ben voyons, ça existe. Là, tu fais comme, ah ouais, c'est un prototype. Non, non, c'est utilisé par les corps de police ou ben non, les unités d'intervention dans toutes les villes. Ah ouais, ils ont ça. C'était peur, hein?
Ben oui, mais ça, c'est tellement intéressant quand tu visites ces trucs-là. OK, bon, donc tu pars dimanche, c'est ça?
Oui, on décolle dimanche, je pense, à 15h quelques de Montréal. On s'en va direct là-bas, on fait nos petites affaires, puis on vous revient avec beaucoup de stock. Tu sais, suivez les réseaux sociaux pendant qu'on est là-bas la semaine prochaine. On va être très, très, très actifs sur les réseaux sociaux. On va vous montrer ce qui se passe à Vegas.
On peut te suivre sur ta page Martin Bourget?
Absolument, sur l'ensemble des pages d'Aventure Chasse-Pêche. Allez sur la page web. Si vous voulez avoir quelque chose qui est centralisé, là, arrêtez de courir après toutes les pages. Ben allez sur la page web d'Aventure Chasse-Pêche. Hein. Demandez au chum Google Aventure Chasse-Pêche. Vous allez tout avoir.
Voilà, c'est le truc. Tu voulais nous parler de viande?
Oui, parce que moi, c'est quelque chose qui vient me chercher souvent. La façon, la facilité avec laquelle les gens vont nous regarder, les chasseurs, puis vont dire « Ouais, ben toi, Bourget, ça te coûte rien, là, l'orignal, là, ou ben non, le chevreuil, là. Tu pourrais m'en donner un peu, là. Écoute, viens t'asseoir à ma table, je vais être très fier de te servir un steak pas d'antibiotiques, élevé en liberté, en pâturage libre, avec pas d'hormones de croissance, etc. Puis ça va être une fierté, mais s'il te plaît, ne réadresse jamais le fait que ça me coûte rien. Parce que si on fait les calculs de ce que coûte une livre de viande à un chasseur versus une livre de bœuf à l'épicerie, puis qu'on rajoute, tu sais, on a parlé la semaine passée dans Marceau de midi, du côté éviscération, du côté s'occuper de sa viande, de toute cette responsabilité-là qui mène à avoir un steak dans mon assiette, bon, on va faire un saut. Il y a effectivement possibilité de chasser en territoire libre à moindre coût, puis pour certains chasseurs, ça devient... La notion chasse de subsistance existe. Ils vont vraiment aller chercher un chevreuil, faire boucherie par eux-mêmes, le mettre dans un sac sous vide, puis le congeler. Puis là, ils vont réussir à aller chercher un côté économique à la viande. Mais si on regarde les sondages qui ont été faits, puis les études qui ont été faites, on va dire dans la moyenne des chasseurs. Là, je parle du chasseur qui réserve une place en pourvoirie ou encore en ZEC ou en CEPAC, qui va s'occuper de son territoire, qui a une arme, qui a quand même une bonne arme, avec des munitions sur le sens du monde, qui est bien équipée. Mais il y a des chiffres qui ont été faits qui nous donnent le reflet. Puis on va prendre l'Orignal, par exemple, qui est probablement le meilleur exemple parce que ça touche beaucoup les Québécois. C'est ce qui est le plus historique dans la chasse québécoise. Une étude qui a été faite en 2001. Fait que là, je vous magane pas trop. C'est la dernière grosse étude qu'on a eue en main. Puis si vous vous souvenez, en 2001 puis aujourd'hui, votre brocoli vous coûte un petit peu plus cher, puis ça vous coûte un petit peu plus cher à toutes les fois que vous allez tinker. Bref, tout vous coûte énormément plus cher qu'en 2001. Fait que j'y vais de manière très réservée. En 2001, l'orignal, on parle d'un déboursé de 134,2 millions pour 18 000 orignaux prélevés dans la province. Ce qui, si on fait la division, donne une valeur. Puis là, on calcule le temps que le gars passe sur son territoire, le gaz, tout l'équipement, les lunchs, l'épicerie qu'il va faire, les tankers de gaz, ouais, etc.
On calcule-tu la préparation, les pommes, les salines, toutes ces affaires?
Exactement,
affaires-là?
Ouais. Exactement. Okay. On met vraiment, là, pour établir la valeur économique d'un orignal, là, on dit que ça correspond à la valeur de la dépense moyenne effectuée par les chasseurs pour chaque orignal récolté sur le territoire. Fait qu'on estime vraiment l'ensemble des efforts monétaires et temporels qui vont être mis. On estimait en 2021 la valeur d'un orignal à 7 310 $. Ça, c'est la valeur d'un orignal, quelqu'un qui s'en va vraiment en... C'est-à-dire, on fait une moyenne. On prend la moyenne maximale, la moyenne minimale, puis on s'en va dans le milieu de ça. Non? C'est 7 310 $ que vous coûte un orignal mis à terre, débité, bouché et rendu dans votre congélateur. Là, on va se pencher sur comment représente de viande un orignal. Puis on va regarder à combien me revient la livre. On dit qu'un orignal, là, puis ça c'est un débat qui est comme pas mal éternel. Combien de viande il te reste au bout de la ligne? Si j'abats une bête, Là, évidemment, on va l'éviscérer, donc on va la défaire en quartiers. Hein, fait que la tête n'est plus là, les organes internes sont plus là, on perd beaucoup de poids déjà. Là, on l'a en quartier, puis après ça, on va désosser, enlever la peau. La peau, ça pèse lourd sur un orignal. On va tout enlever. On s'est dit, du moins la moyenne qu'on parle régulièrement, c'est environ 43 %. Le chiffre magique, c'est 43 %. 43 %, ça reflèterait ce qui me reste de viande un coup de débité. Fait que là, on va faire un calcul, puis je vais le faire live avec toi là. Je vais aller chercher ma calculatrice drette là. On va prendre un orignal, on va être réservé, on n'ira pas dans le minimum, on n'ira pas dans le maximum, on va prendre un orignal de 600 livres debout. Mon orignal s'en vient, il pèse 600 livres. Je vais aller chercher 43 % de ce poids-là. 43 % de ce poids-là, ça me donne 258. OK? 258, c'est le nombre de livres qui devrait me rester de viande au bout de la ligne. Je vais reprendre le même montant que tantôt, c'est-à-dire 7 310 $, puis je vais le diviser par 258. Là, on n'est pas dans la métaphore, on n'est pas dans l'alchimie, là. On est dans le calcul mathématique là, bien standard. Ça me donne 28,33 la livre.
Hey boy!
Alors, là, je m'en vais sur le site de Métro.
Oui.
Je m'en vais chercher qu'est-ce qui vaut ce prix-là. À date, là, en avant de moi, là, c'est sûr que si je vais dans le filet mignon, qui est une petite partie de l'orignal que je vais récolter, puis je le compare à du bœuf Angus Platinum, là, je suis un petit peu au-dessus. Je suis à 39 $ la livre. Mais on va aller là, dans des beaux morceaux là, qu'on est habitué de consommer. Tain, Platinum Grill Beefsteak de contre-filet de bœuf Angus désossé. On est à 20,99 $ la livre, puis là, je suis dans le top du top du top. Là. Hein? Si on parle de bœuf haché, de très bonne qualité, on parle d'une lanière de bœuf Angus une lanière de bœuf Angus qui a été mise en bœuf haché, là, on est à 6,99 $ la livre. Ça fait une méchante... Bœuf haché standard, là, on est à 5,49 $ la livre. Tu vois, regarde du beau gros bœuf extra maigre, là, on est à 8,29 $ la livre. Il existe donc une énorme différence entre la viande que vous achetez à l'épicerie et ce que... Parce que le 28,33 $ la livre, là, c'est pour toutes les pièces confondues. Fait que là, on pourrait refaire une division et dire quelles sont les parties nobles versus le steak haché, la fondue, la saucisse. La saucisse, c'est pas gratis. Faut que je la fasse faire aussi par le boucher. Il y a un certain nombre, il y a un certain montant au traitement pour virer ça en saucisse à la livre. Fait que 28,33 $, c'est la moyenne que coûte la livre d'orignal à un chasseur qui amène ça dans son congélateur. Quand vous regardez le milieu de la chasse ou le milieu de la pêche, parce que la pêche, c'est la même chose, on déploie beaucoup d'efforts financiers pour finir qu'à aller pogner une petite truite en bas d'une livre, 4-5 dans la journée, bien, la livre de poisson ou la livre de steak que va ramener un chasseur à la maison, ne regardez pas le facteur économique. Il y a là-dedans une activité qui est faite par choix, et on a souvent des chasseurs, de plus en plus, on parlait des chasseurs, et ils font le choix d'être chasseurs pour aller chercher une viande et offrir à leurs enfants et à leurs amis une viande qui est exempte de tout ce qui s'appelle hormones de croissance, antibiotiques, stress, cruauté animale, etc. Là, on va dire, c'est quand même de la cruauté. Pour la mise à mort, là, on pourrait faire toute une émission là-dessus, à savoir, là, à faire la différence entre le poinçon, l'électricité dans les abattoirs, qui est faite de manière très, très propre. On a des éleveurs puis des abattoirs qui aujourd'hui sont de très haut niveau. Puis la mise à mort qu'on fait dans le bois, la différence entre les deux, ça a été discuté en long et en large avec des vétérinaires, avec des comportementalistes, puis effectivement, il y a une similarité qui est presque à ex aequo entre les deux si on va vraiment au fond des choses. Fait que le chasseur qui décide d'aller récolter sa viande ne le fait pas par facteur économique. Il le fait par choix dans une activité, dans l'espèce de conscientisation de comment je veux rendre ma viande sur la table? Je veux-tu rendre ma viande sur la table au travers d'une industrie qui produit des porcs et des bœufs sans avoir aucun lien avec la récolte de cet animal-là, puis accepter que cet animal-là a été produit, donc a été un petit peu bonifié dans sa croissance, puis avoir une viande qui est correcte, ou je veux aller chercher cette viande-là qui est entièrement bio, en faire profiter mes amis puis ma famille, puis avoir la fierté de dire que j'ai été un acteur dans un écosystème où est-ce qu'on a suivi un plan de gestion, on a aidé à régulariser des cheptels, donc à en assurer la pérennité. Ça, c'est la question qu'on se pose. Mais comme vous venez de le voir, c'est vraiment, vraiment pas le prix. Et là, on parle d'un animal récolté. Je t'amène sur un autre point. demande aux chasseurs qui sont en onde présentement s'ils récoltent à tous les ans. Fais une moyenne des réponses que tu vas avoir. Tu vas avoir une récolte environ aux 4 ou aux 5 ans dans l'orignal par chasseur. Puis ça, c'est mon évaluation à moi. L'évaluation qu'en fait le ministère est encore moindre que ça. Fait que rajoute à ça les années que le chasseur a déployé tous ses efforts financiers puis temporels-là sans même récolter. Là, on vient de faire x5 avec le chiffre que je t'ai donné.
Puis on revient à nos beaux-frères qui sont un peu bizarres puis qui calculent rien. Ah, mais là, t'es allé récolter un orignal, ça te coûte à rien. Donne-moi donc une coupe de livres d'orignal. T'as peu, là. Je vais te le donner si je le désire, si je veux te faire un cadeau, mais sache que ça coûte de l'argent. Tu l'as bien dit, 7300 en moyenne par orignal. Puis ça, c'est sans compter les années où tu fais à peu près le même travail pour le récolter, mais finalement, il n'est pas là, il n'est pas au rendez-vous, l'orignal que tu as tant convoité.
Et voilà, il faut que ça rentre dans ton calcul. Là, on a fait un calcul avec le best case scenario, là, littéralement. Là, on est à 28 et 33 de la livre. Là, on n'a pas été chercher un chevreuil anticosti, ou on n'a pas. Puis je comprends que c'est réservé à une certaine classe de personnes qui ont le moyen de le faire. Mais si vous calculez réellement, même en territoire libre, où est-ce que vous ne payez pas pour votre territoire, tout l'effort que vous mettez là-dedans, hey, ça serait simple d'être hypocrite puis de dire, bon non, ben moi, je vais ramasser le résultat du travail de quelqu'un d'autre puis je vais payer pour, mais aller acheter du bœuf. C'est un choix, là. C'est un choix. Demain matin, les 5 enfants ici décident que leur sport pour les prochaines années, c'est la chasse. On a un problème, là. Parce que entre la chasse, le golf puis le ski alpin, financièrement, pour une famille, je serais bien plus content qu'ils fassent du ski alpin ou du golf. Dans mes valeurs, je vais être beaucoup plus heureux qu'ils fassent de la chasse. Puis moi, j'ai le privilège d'avoir fait le choix de choisir, parmi tous les moyens qui m'auraient permis de gagner ma vie, j'ai choisi celui qui, pour moi, était le moins chiant et qui était le plus intéressant. Je chasse, je pêche, puis j'anime des émissions. Ça me permet d'avoir accès, dans mon cas à moi, à ces ressources-là, à moindre coût, on va le dire comme ça. Mais les 5 enfants, demain, décident de devenir pêcheurs puis chasseurs. Ça va me revenir à beaucoup plus cher que s'ils font du hockey, du football, du ski alpin ou quoi que ce soit d'autre. C'est une activité qui, aujourd'hui, est rendue une activité de luxe. Fait que quand on regarde le verbatim d'un gouvernement qui protège une partie de la population en disant « Ouais, mais pour eux, c'est de la chasse de subsistance », ben avec la réalité économique d'aujourd'hui, avec le coût de cette viande-là, quand j'en fais le choix, tabarouette, lâchez les chasseurs un peu. Là. Dans vos conversations là, de placer les chasseurs comme les méchants individus qui s'en vont meurtrier une bête dans un beau petit pré pendant qu'ils pensaient à des licornes, ben révisez un peu vos pensées là-dedans. Parce que en réalité, le sauvage, dans ma tête à moi, est celui qui décide par besoin personnel puis par confort personnel de se détacher de la mise à mort de l'animal puis qui ne veut pas l'avoir en face. Loin de mes yeux, loin de mon cœur. Regardez-le avec respect, ce chasseur-là. C'est un acteur faunique, ça coûte vraiment plus cher que vous autres pour amener une viande, on va dire, de beaucoup plus grande qualité à la table, mais pour amener de la viande à la table et d'être fier.
Oui, c'est ça. Il y a des gens qui ont le cul béni d'être nés en 2000, des années 90, 2000 et tout ça, mais tu te dis, il y a peu. Là, c'est parce qu'à un moment donné, la chasse, c'est comme la base. Là. C'est comme ça qu'on a réussi à vivre au fil des ans en étant humain. Puis on sait, avec les décennies, ben, on a réussi à se développer puis devenir les humains qu'on est aujourd'hui. Mais la chasse, ça a toujours fait partie de notre vie, tu sais. Mais quand tu nais en 2024, tout ce que tu fais, c'est ridiculiser les chasseurs, ridiculiser les pêcheurs, alors que ces gens-là font quelque chose que traditionnellement, ça a toujours existé. Là. Je trouve ça particulier, mais des fois, j'aimerais les mettre. Tu les prends, là ils ont 20 ans, 25 ans, sont nés aux alentours des années 2000. Tu les mets dans les années 30, ces gens-là meurent. Là.
Eh oui. Ils vont regarder le téléphone à roulette, ils vont faire décaisser. C'est un toaster, ça.
Ils vont juste mourir. À un moment donné, tu peux pas vivre en cueillant des fruits l'hiver. Là. Ça marche pas. Il faut peut-être d'autres techniques. Là.
Tu parles d'une société dont les pères bâtisseurs, fondateurs, ont défendu leur pays, leurs valeurs avec des armes à feu, ont fait subsister leur famille, dont leur descendance, ça veut dire vous autres là, qui écoutez la radio présentement, là, en allant dans le bois, en allant chercher des animaux, en les trappant, en régularisant ces cheptels-là. Ils ont défendu vos villages puis vos familles avec des pics, des haches, des marteaux puis des armes à feu. Puis aujourd'hui, le respect qu'on a envers ces pères fondateurs-là puis la réalité de nos racines, c'est démoniser ça, puis de se dire meilleur dans les choix qu'on a faits en industrialisant tout ça, en scrapant la planète. Et bravo. Pour vrai, là, bravo, bravo.
Oh boy, c'est-tu facile travailler dans le merveilleux monde de la chasse et de la pêche? T'as-tu à répondre à des personnages particuliers?
C'est un challenge de tous les jours. Puis là, on parle, mettons, d'anti-chasseurs versus les chasseurs. On va juste parler à l'interne dans le domaine de la chasse et de la pêche. Ça peut être une vraie jungle. C'est un domaine qui est fantastique, qui est fabuleux, qui est rempli de gens qui ont des valeurs, puis du cœur, puis incroyables, qui ont le cœur sur la main. Mais comme dans n'importe quel domaine, il y a tout un bastion, évidemment, de détracteurs, de gens qui peut-être auraient voulu faire ce qu'on fait dans la vie, c'est-à-dire d'animer, de faire ça de notre vie. La question, c'est est-ce qu'ils se sont vraiment déjà donné les moyens de le faire? Est-ce qu'ils se sont déjà vraiment botté le cul pour faire ça? Littéralement, on va se le dire. Ben, plus souvent qu'autrement, la réponse, c'est non. Mais malheureusement, la réaction de ces gens-là, qui pourraient venir nous voir faire comme, écoute, ça m'intéresse, pourrais-tu me dire un peu quel chemin prendre? Puis en passant, ça nous ferait plaisir de le faire. On le prouve présentement avec notre Grand Prix Distinction Créateur de Contenu. On coach des créateurs de contenu pour qu'ils aillent chercher des commanditaires, qu'ils fassent la même chose que nous autres. Ben, il y a des gens qui choisissent de prendre l'autre voie, puis de simplement jalouser, puis attaquer sans relâche. Puis vraiment, il y en a, là, que c'est une vendetta, là. Une vendetta, là. On fait affaire avec des spécialistes au niveau web, dont une partie de leur job est de surveiller. Ils vont faire ce qu'on va faire de la surveillance de réputation web. Eux vont détracter, ils vont chercher de manière continue sous notre nom pour voir qui écrit quoi, parce qu'il y a de ces gens qui vont se faire une mission de partir avec notre nom, puis d'aller sur l'ensemble des médias sociaux connus ou moins connus, et aller détracter, puis tenter de détruire, parce qu'eux n'ont pas accès ou se sont pas donné la possibilité d'avoir accès à ce à quoi moi j'ai accès. Et ça, là, en 2024, ça devient excessivement lourd au moment où est-ce que les mêmes lois et règlements qui s'appliquent dans la vie de tous les jours en matière de civilité, les lois civiles et criminelles, ben, sur le web, on dirait que d'abord, je pense qu'on n'a pas suffisamment d'agents qui sont disponibles pour surveiller ce qui se passe sur le web, mais c'est rendu un free-for-all tellement inquiétant, parce que moi, je suis capable d'assumer. Là. J'ai fait des choix. Je suis un chasseur, je suis un pêcheur, je suis un père de famille. J'entends défendre ma famille et les valeurs avec lesquelles on éduque nos enfants. Ça me dérange pas de manger 2-3 claques à gueule. On va se le dire, là, je vais aller au bat, puis je vais défendre mon point de vue. Puis je suis pas gêné. Puis à la limite, s'il y en a là-dedans qui n'aiment plus le personnage qui anime, ben il y a plein d'autres bonnes émissions, mais ça va me faire plaisir de les référer. Mais je vois toute une relève qui tente de rentrer dans ce domaine-là. Ils sont des nouveaux chasseurs, des nouveaux pêcheurs, des ornithologues, des gens qui s'intéressent à la nature, des créateurs de contenu, qui se font rentrer dedans sans aucune foutue raison apparente, à l'exception d'une question chatouillage de testicules, parce que quelqu'un a moins que l'autre parce qu'il ne s'est pas donné le moyen. Puis ça devient, non seulement c'est pernicieux, mais ça devient toxique, parce que des jeunes qui vont regarder à quelle activité je vais m'adonner. Je vais te faire de la chasse, de la pêche, du ski, du ski, du golf, du quoi que ce soit, et qui vont simplement se promener sur les différents médias sociaux présentement. Je te garantis, s'ils tombent sur du stock de même, jamais ils vont devenir chasseurs.
Non, c'est ça. Mais c'est quoi la solution? On doit faire une pause là, dans les prochaines minutes, mais c'est quoi la solution pour... quand on fait affaire avec ce type de personnage-là, qui, c'est peut-être des envieux, c'est peut-être même des compétiteurs, c'est peut-être même des gens qui sont des Brigitte Bardot de ce monde. Ils ont l'impression que vous tuez des blanchons, puis que vous mettez du sang partout, puis vous les faites souffrir à n'en plus finir. C'est quoi la meilleure des façons de dealer avec ces gens-là qui, bon Dieu, empêchent des jeunes d'avoir accès à la chasse et la pêche, tu sais, puis de ce beau loisir-là qu'est la chasse et la pêche?
Dans le passé, c'était de parlementer, c'était d'ouvrir la discussion. Présentement, c'est tellement rendu idéologique et non pas logique que ça donne rien, on met de l'huile sur le feu. Alors, pour le jeune qui est aux prises avec ça, puis là, écoute-moi bien, je sais que tu penses peut-être pouvoir raisonner ces personnes-là, mais c'est la dernière des bonnes idées que d'aller au front et de parlementer. Libère-toi de ça, puis quand ils sont sur ton compte ou quand ils sont sur ton groupe, bloque ces individus-là. dès que ça commence, dès qu'on est en 2024, ils n'arrêteront pas.
Ben non. Non, ils n'arrêteront pas. C'est clair qu'ils n'arrêteront pas, Martin.
C'est d'attendre. Tu sais, c'est l'intimidation qu'on a toujours décriée sur le terrain est rendue à des niveaux d'une violence incroyable au niveau des mots qui sont utilisés pour pointer des jeunes. Puis là, je vais parler à celui-là qui est en arrière du clavier. Là. Es-tu capable d'avoir idée deux petites secondes de ce que tu peux créer dans l'évolution d'un jeune avec les mots et les termes que tu utilises? Première des choses, c'est « shame on you ». L'autre chose, c'est le jeune ou le moins jeune qui est aux prises avec ça, essaye pas de régler la situation. On est en 2024, la permissivité est rendue tellement grande, bloque la personne. Arrête ça, bloque la personne. Elle va peut-être revenir sur d'autres noms. Bloque puis signale, littéralement. On a même pensé, nous autres, avant les fêtes, on s'est gratté la tête beaucoup, à dire, est-ce qu'on sort des médias sociaux?
La réalité,
c'est qu'on peut plus faire ça parce qu'ils nous ont menottés. Mais on s'est demandé, est-ce qu'on arrête ça, les médias sociaux? Avant ça, Chasse-Pêche sortait un statement public, faire comme, nous faisons le choix, sciemment et consciemment, avec une étude de cas, de débarquer. On arrête de backer ça, on arrête d'endosser ce qui se passe là-dessus. On s'en va de là.
Mais j'ai l'impression qu'avec le temps, les réseaux sociaux vont se régulariser, puis il y aura des équipes, des gardiens, je sais pas trop comment qu'on pourrait les appeler, mais qui vont circuler sur TikTok, qui vont circuler sur Facebook ou encore sur Twitter X, puis qui vont faire... cette personne-là, à chaque fois qu'elle embarque sur ce compte-là, de un, c'est un compte anonyme, mais de deux, elle ne fait que de la misère à d'autres personnes. Peut-être qu'un jour, on sera en mesure d'identifier ces personnes-là, c'est-à-dire, voici, cette personne-là œuvre au nom de Ticlin Lachapelle, mais son vrai nom, c'est Steve Langlois, puis il habite à telle place.
Je te pose une question. Si l'intelligence artificielle puis les détracteurs automatiques de ces différents systèmes-là sont capables de trouver des droits d'auteur, des termes utilisés ou des adresses IP qui vont faire de la récidive au niveau de tentatives publicitaires et de l'essai agréable de ça, peux-tu même dire pourquoi est-ce que c'est pas possible dans le côté contrôle de contenu?
Ouais, mais c'est de... Tu sais, Tu peux retrouver quelqu'un sur Twitter X, là, mais tu dois passer par la cour, puis là, ben, la cour doit te donner la permission de pouvoir aller plus loin dans ta démarche et va obliger une entreprise comme Facebook ou Twitter à rendre public l'adresse IP de la personne. Puis là, ben, toi, avec l'adresse IP, tu es capable de te rendre jusqu'à la personne, mais c'est des mois et des mois de travail et d'effort pour en arriver à trouver cette personne-là qui te lâche pas. Moi, je sais, c'est une clause Norwich qu'on appelle. Donc, je salue les gens qui sont capables de se rendre jusqu'à la clause Norwich, mais c'est extrêmement compliqué. Mais j'espère qu'un jour, les réseaux sociaux vont se régulariser, puis ça va faire en sorte que les personnages qui sont extrêmement toxiques puissent disparaître. Hey, Martin Bourget, on rappelle que tu es président du groupe Aventure Chasse-Pêche. Tu es le chroniqueur Chasse-Pêche que j'ai le plaisir de jaser sur les ondes de boulevard, que ce soit dans Marceau le midi ou encore dans Marceau le soir. On va faire une très courte pause, puis après ça, ben, on revient avec d'autres sujets. Restez là.
Marceau le soir.
Marceau le soir, présenté par Voyage Aquaterra Lévis, Québec.
Ce soir, on a le plaisir d'être accompagné de Martin Bourget, qui est président du groupe Aventure Chasse-Pêche. Vous l'aurez deviné, c'est le chroniqueur Chasse-Pêche et c'est le sujet de ce soir. Il reste à peu près 4-5 minutes, Martin, à jaser, toi et moi. On a, pour ceux qui voulaient entendre parler là, des gros sangliers qui étaient en fuite, on n'a pas de nouvelles du mâle et de la femelle qui s'étaient sauvés.
Ben écoute, bacon et saucisse sont toujours en cavale. Je ne sais pas où est-ce qu'ils sont rendus, mais écoute, tellement capable de s'adapter ces grosses bébites-là. Si on a un bois en quelque part, si on trouve de l'écorce à gruger ou ben non, des bébites à manger, on va les voir ressurgir à un moment donné.
Mais je me souviens pas si c'est toi qui me dis ça ou si c'est un auditeur, mais la personne m'a écrit et elle m'a dit « Yann, c'est parce que oui, là, on a un problème avec ces deux sangliers-là, mais il existe les sangliers au Québec, tu sais, puis ils se multiplient. »
Oui, on en avait parlé ensemble.
On va peut-être avoir des problèmes dans les prochaines années avec ça, mais tu sais, je ne comprenais pas pourquoi on prenait l'affaire aussi au sérieux. Mais c'est parce que ça va être une espèce qui va être nuisible pour l'homme là, dans les prochaines années, probablement.
Oui, définitivement. Bon, tu sais, je veux dire, à toutes les fois que tu rentres une nouvelle bébite qui va compétitionner au niveau alimentaire avec les bébites que tu as sur place, la population endémique,
ouais.
ça représente un problème. Tu sais, on parlait de la carpe asiatique dans le fleuve dans le passé, on parle c'est toujours la même chose. Toujours, on va toujours se préoccuper parce que ça peut avoir un impact au niveau de la biodiversité qui peut être majeur. Mais comme tu dis, on en a vu deux, mais ça fait longtemps que les chasseurs prennent des photos de sangliers sur leur caméra de chasse au centre du Québec.
Ouais, pis, contrairement à certains chasseurs qui décident de faire des guilis-guilis quand les chevreuils approchent, un sanglier, tu ne peux pas y faire des guilis-guilis.
Non, c'est ça. Non. C'est pas recommandé.
Non, c'est ça. Avec le très peu de neige qu'on a connu au mois de novembre et décembre, il va-tu y avoir un impact sur les cheptels, que ce soit sur les cheptels d'orignaux, de chevreuils, les autres cheptels qu'on peut avoir au Québec?
Positif, un impact positif.
Ah oui, OK.
Nous aussi, une température qui était quand même assez clémente. Les cheptels, pour ceux qui ne le savent pas, là, les cheptels d'orignaux, puis le cheptel d'orignal, puis de chevreuil, de cerf de Virginie, au Québec, nous inquiète beaucoup dans les dernières années. Il y a même des comités qui ont été mis en place, le comité Élan, entre autres dans le secteur de Portneuf, avec Michel Therrien et tous les acteurs fauniques dans ce coin-là, pour se pencher sur la question de quels sont les facteurs qui viennent causer la problématique de la diminution flagrante, d'une grosse diminution de la population. On se rend compte rapidement que les chasseurs sont très loin dans la liste. Hein. Le cerf de Virginie, on l'a dit à quelques reprises, moi et toi, quand on demande aux biologistes, les facteurs qui vont faire qu'on va perdre des cerfs de Virginie, cause de mortalité chez les cerfs de Virginie, là, cause numéro 1, la neige. 2, le coyote. OK? Donc,
la neige arrive en priorité.
Oui, la neige arrive en priorité. On a un territoire dans lequel les animaux doivent ravager. Hein, ils doivent se rassembler pour être capables de passer l'hiver parce qu'on a des hivers qui sont lourds, qu'il y a beaucoup de neige. Et ça demande énormément de déploiement d'énergie que de sortir de ces ravages-là. Fait que quand on a des mois qui sont plus cléments, comme on vient d'avoir, moins de neige, avec des températures plus douces, mais ça donne un cristi de coup de main, surtout aux veaux de l'année. Les veaux de l'année vont passer l'hiver plus facilement, puis on va sortir de notre saison hivernale avec beaucoup moins de pertes dans les cheptels. Et évidemment, ça va aussi avec, les coyotes et les loups vont se déplacer plus facilement, mais vu que les animaux sont moins centralisés, ils vont rentrer dans leur ravage quand même, mais sont beaucoup moins en petits groupuscules. Ben, l'embuscade est plus dure pour les loups et les coyotes dans ce cas-là. Ils vont devoir déployer beaucoup plus d'énergie parce que là, tu n'as plus affaire à un chevreuil ou un orignal qui court dans 4, 6, puis 8 pieds de neige. Là, il est sur la terre ferme. Puis je vais te le dire, pour qu'un loup ou un mâle alpha autorise l'attaque sur une femelle, même une femelle orignale, généralement, il va attendre qu'il y ait beaucoup de neige pour peut-être avoir une chance de pas trop faire tuer de membres de sa meute.
OK.
C'est pour ça que le loup passe tout son printemps, été et automne, le loup, il mange du castor. Il est pas dans l'orignal, il est dans le castor. Uh-huh. C'est une belle viande, bonne viande, facile, mais surtout moins risquée pour sa meute. Parce qu'une femelle qui s'est attaquée par une meute de loup, là, c'est pas rare qu'au trapage, les gars trouvent des loups avec des cages thoraciques complètement défoncées, un côté de crâne défoncé. Ça, c'est des loups qui ont été piétinés par des orignaux sur lesquels ils se sont essayés à la chasse. Okay. Donc, ils ont essayé d'attraper.
Est-ce que les bêtes ont été nourries plus longtemps qu'à l'habitude? Parce que là, sont capables quand même, les veaux que tu me parlais tantôt, sont capables quand même de manger au sol, vu qu'il n'y a pas de neige. Là. Est-ce qu'on aura peut-être des animaux plus gras pour les prochaines années?
C'est l'autre point. À part comme le soya, par exemple, là, à partir de la deuxième gelée, le soya devient indigeste pour les cervidés. Mais pour l'ensemble, là, le maïs, le broutage au sol, etc., ça a été dégagé plus longtemps. Fait qu'évidemment, il a pu emmagasiner beaucoup plus d'énergie avant de tomber dans la saison un petit peu plus froide à laquelle on a affaire là. Puis c'est pas si terrible que ça. Il n'y a pas tant de neige, puis il fait pas si froid que ça. Là. Fait que tous ces facteurs-là vont faire que ça va être une belle saison hivernale pour nos cheptels d'orignaux puis de chevreuils. On espère avoir, je ne sais pas s'il y a des inventaires aériens de pochettes hivernales qui sont cette année par le ministère, mais d'après moi, on va avoir des beaux chiffres. On va avoir des beaux chiffres, puis ça, c'est très encourageant pour la faune environnante. Puis ça permet aussi une autre chose. Les trappeurs peuvent aller plus longtemps sur leur territoire de trappe. Donc, le contrôle de la prédation cette année s'est fait pendant plus longtemps. Il y a beaucoup de trappeurs qui avaient tout serré leur piège parce que la neige s'en venait. Et ils ont ressorti. Donc, un meilleur contrôle, une meilleure déprédation, si tu veux, une meilleure période de déprédation aussi.
OK. Martin Bourget, c'est déjà tout pour nous, pour les gens qui veulent vous voir sur les réseaux sociaux, qui veulent avoir accéder à vos pages, qui veulent voir votre contenu. Ils peuvent aller à quel endroit?
Le plus facile, c'est le site web d'Aventure Chasse-Pêche. Tenez-vous aussi beaucoup sur nos Facebook. Hein. Jeudi, cette semaine, on est encore en live. On va justement parler de préparation chasse pour le dindon sauvage. On va parler aussi de ce qui s'est passé au ATA, les nouveautés sur l'archerie. Mais venez sur notre page web, sinon tous les soirs 21h, tous les jeudis soirs 21h sur les ondes de Télémag. Partout sur Facebook, vous allez nous trouver facilement aussi.
C'est ça. Puis la semaine prochaine, ben, à partir de dimanche, en fait, tu t'envoles avec trois de tes partenaires d'affaires vers Vegas au SHOT Show. Fait que je te souhaite de passer une belle semaine la semaine prochaine au SHOT Show, puis on aura le plaisir de s'en rejaser, cher ami, à ton retour.
La semaine prochaine, dans Marceau le midi, je vais être à Vegas, fait qu'on va pas parler directement de là-bas.
Ah, c'est très cool. Ben oui, c'est très cool. Un gros merci, Martin.
Merci.
Salut, bonne fin de soirée. Bye bye.
Salut.
Nous autres, on s'arrête là-dessus. Je vous souhaite de passer une belle fin de soirée de même. Puis, demain, 11h, on sera là pour Marceau le midi. Merci d'avoir été là. Bye bye.
Marceau le soir.
Qu'est-ce que les joueurs des